place publique.
La Chrysalide va déménager. L'institution neuchâteloise de soins palliatifs, créée il y a 20 ans, va quitter cette année l'immeuble qu'elle occupe à la Chaux-de-Fonds, lieu jugé trop cher et pas aux normes, selon l'hôpital neuchâtelois. De quoi alerter les spécialistes du domaine qui militent pour que l'accompagnement en fin de vie ne soit pas sacrifié sur l'autel de la rentabilité. L'infirmière et écrivaine Rosette Poletti est avec nous dans un instant. Il a longtemps animé la vie politique jurassienne, se forgeant une réputation de bâtisseur hors normes. Pierre Kohler se consacre aujourd'hui pleinement à ses affaires privées dans l'art et l'immobilier. Notre entretien à découvrir après 18h30, à un mois de sa venue au salon neuchâtelois de l'immobilier. Et enfin, en dernière partie d'émission, Raphaël Donjean nous rejoindra. L'éco-explorateur neuchâtelois, initiateur du projet Solar Stratos, vient de rentrer de Moscou. C'est là qu'il a testé, hier encore, une combinaison spatiale qui doit lui permettre de tutoyer l'espace en avion solaire.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devec.
Bonsoir à tous. 20 ans après sa création, la Chrysalide doit déménager. Le bâtiment qui abrite l'institution de soins palliatifs à la Chaux-de-Fonds coûte trop cher et n'est plus aux normes. L'annonce faite il y a 15 jours par l'hôpital neuchâtelois dans le cadre de ses mesures d'économie a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup craignent que des compétences précieuses soient perdues et que les personnes en fin de vie et leur entourage ne disposent plus d'un lieu adapté pour passer leurs derniers jours. Cela dit, le Conseil d'État neuchâtelois s'est voulu rassurant hier. Les prestations seront maintenues et ne seront pas déménagées dans la précipitation. Alors pour mieux comprendre quels sont les enjeux liés à l'accompagnement de personnes en fin de vie, on a le plaisir d'accueillir Rosette Poletti. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Les romans vous connaissent très très bien, ils vous lisent chaque semaine dans le Matin Dimanche depuis plus de 30 ans. Vous êtes infirmière de métier spécialisée notamment dans les soins palliatifs, vous formez d'ailleurs de nombreux bénévoles dans ce domaine. Alors Rosette Poletti, le gouvernement neuchâtelois se veut rassurant, pas question de supprimer les soins palliatifs, mais de les déplacer ailleurs dans un lieu qui reste à définir. Est-ce que vos craintes sont dissipées ?
Oui, enfin moi je constate qu'il y a un intérêt, qu'on veut garder ce fleuron des hôpitaux neuchâtelois, parce que c'est vrai que la Chrysalide, dans 20 ans, elle est devenue une référence largement connue, avec des gens qui y ont travaillé, qui sont des pionniers dans ce domaine, comme M. von Wies, Mme Pécaud, le Dr Gromot, ce sont des gens qui ont fait vraiment partir les soins palliatifs dans le canton de Neuchâtel.
Et qu'on comprenne mieux alors, qu'est-ce qui fait de la Chrysalide ce fleuron dont vous parlez? Qu'est-ce qui doit à tout prix être conservé?
Ce qui doit être conservé, en fait, c'est les conditions dans lesquelles les soins pouvaient se donner là-bas. Il y a toujours eu des équipes bien soudées, avec aussi peu de hiérarchie que possible, de façon à ce que l'information passe bien, qu'il y ait une communication positive. Il y avait une formation permanente, toujours une recherche de soutien pour les gens qui y travaillaient. Et puis, on s'est aussi occupé là-bas des endeuillés, des proches de ces personnes. Et ça pouvait se faire d'une façon assez personnalisée, parce que on pouvait vraiment se centrer sur ces personnes et on n'était pas en quelque sorte gêné par de grands règlements qui sont faits pour de grandes institutions.
Rosette Poletti, l'hôpital neuchâtelois doit, vous le savez, hein, à tout prix faire des économies. Il est question ici de plus de 700 000 francs rien que pour cette année. Est-ce que vraiment il est nécessaire de garder, si vous me permettez, une maison de maître pour garantir de bons soins palliatifs?
Non, je ne pense pas que c'est nécessaire de garder une maison de maître. Bien sûr, c'était magnifique. Les gens qui ont pu y passer leur dernier moment le disaient alors qu'ils étaient encore là-bas, et leur famille l'a souvent dit après. C'était un endroit magnifique. Mais ce qui est nécessaire, c'est que où que ce soit maintenant reconstruit ou aménagé, cette possibilité de ne pas être pris dans un grand bâtiment où on est obligé d'avoir des normes qui concernent tout le monde. Par exemple, dans une unité de soins palliatifs, il faut que les proches puissent y venir n'importe quand. Il faut pouvoir les aménager quelque chose pour eux, pour qu'ils puissent passer peut-être la dernière nuit ou les dernières nuits avec la personne. Il faut pouvoir avoir la souplesse de donner à manger à quelqu'un en dehors des heures officielles de repas. Il y a toutes sortes de choses qui sont nécessaire pour justement permettre à ces personnes de vivre comme elles les vivent, le vivaient si bien à la chrysalide, leur dernier jour.
Et ça,
ça peut se faire ailleurs.
Voilà.
Mais c'est l'esprit qui doit rester.
Mais donc ça, ces prestations dont vous parlez, le milieu hospitalier est moins capable de les fournir. C'est moins adapté pour la fin de vie.
C'est-à-dire que ça dépend où ça se trouve, mais dans un hôpital, dans un grand hôpital, on est obligé d'avoir des normes et puis de demander à tout le monde de vivre d'après ces normes. Et les soins palliatifs, c'est quand même quelque chose de spécial. Ce sont les derniers moments d'une personne. Et c'est important de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire pour elle sans se préoccuper trop de savoir si c'est permis, c'est légal ou je ne sais pas quoi.
Quand vous parlez de normes, qu'est-ce que vous entendez par là, qu'on comprenne mieux ?
Mais par exemple, je pense spécialement à la présence des proches. Permettre qu'à n'importe quel moment ils puissent être là, qu'à n'importe quel moment ils puissent être dans cette chambre, aménager les choses pour que peut-être la personne puisse avoir quelqu'un à côté d'elle. Donc souvent ça veut dire des chambres à un lit, des possibilités pour ces personnes de rester là, des possibilités d'être soutenues elles aussi. Et ça veut dire avoir peut-être une dotation aussi légèrement supérieure à la moyenne dans un hôpital, avoir l'accueil de bénévoles, préparation de ces bénévoles, vraiment faire tout ce qu'on peut et qui n'est pas toujours possible de la même manière dans un grand hôpital.
Pour vous, c'est important de pouvoir localiser ces prestations, ce savoir-faire, pour aussi former des personnes qui pourront aller, le cas échéant, sur le terrain.
Oui, c'est vrai que le but de tous ces lieux de soins palliatifs, c'est pas que toutes les personnes en fin de vie meurent là, on sait bien que c'est pas possible, mais c'est d'être des lieux où on a une excellence dans ce type de soins qui peut être démontré, où il peut y avoir des stagiaires qui viennent, des stagiaires médecins, des stagiaires soignants, des gens qui viennent voir comment on peut faire, et puis qui apprennent de façon à pouvoir introduire la majorité de ces concepts ailleurs, dans toute la mesure du possible.
À l'heure où de plus en plus de monde souhaite mourir à domicile, avec l'aide notamment de fondations comme Exit, à l'heure où aussi on parle de soins palliatifs souvent en termes d'unités mobiles, est-ce que vraiment des lieux physiquement établis comme la chrysalide seront toujours aussi nécessaires ?
Moi, je pense que ce sera toujours aussi nécessaire comme lieu de formation, d'enseignement et de recherche. Et puis ensuite, à partir de cet endroit-là, qui reste une référence, qui reste un lieu de conseil, où on peut trouver de l'aide dans certains moments, à partir de là, il y a des unités mobiles qui se développent et ces unités vont aider ceux qui œuvrent à domicile pour donner l'aide nécessaire pour que le concept des soins palliatifs soit applicable partout et bien sûr à domicile aussi. Mais dans tous les pays où j'ai travaillé en soins palliatifs, le lieu de soins palliatifs sert de lieu de référence, de lieu où on peut voir comment ça fonctionne, se former pour pouvoir aller étendre ceci à l'extérieur. En fait, c'était dans les mandats de la chrysalide. Il y avait des stratégies qui sont censées durer de 2017 à 2027, et c'est justement renforcer cette sensibilisation aux soins palliatifs, tant parmi les soignants publics, etc. Ça veut dire avoir un lieu, une possibilité de disséminer ce savoir.
Vous qui formez des bénévoles à l'accompagnement en fin de vie, quelle est la première chose que vous devez leur apprendre ? Quelle est la prise de conscience que l'on doit avoir dès qu'on parle d'accompagnement en fin de vie ?
C'est de remettre en question l'idée qu'on a qu'il faut absolument faire quelque chose et dire quelque chose. Peut-être que ce qu'ils apprennent de plus inattendu, c'est que l'essentiel, c'est d'être et d'avoir une capacité de présence calme et une capacité d'écoute. C'est ce que demandent le plus les personnes en fin de vie. Elles n'ont pas besoin de conseils, elles n'ont pas besoin qu'on fasse sans cesse des choses, mais souvent elles demandent d'être simplement accompagnées par quelqu'un qui a la capacité d'être là avec, je dirais, avec sollicitude et compassion, sans forcément chercher à faire ou à dire des choses.
Merci Rosette Poletti, d'où l'importance d'un lieu où on s'y sent bien et où on est inspiré pour être d'autant mieux. On vous souhaite bien sûr une bonne soirée. Au revoir Rosette Poletti.
Merci beaucoup monsieur, au revoir à tous vos auditeurs.
Place publique. Gabriel Devecq.
Pierre Kohler est-il un baron de l'immobilier? Il est en tout cas annoncé comme tel par les organisateurs du prochain salon de l'immobilier neuchâtelois. Dans un mois, Pierre Kohler, en effet, interviendra lors d'une table ronde le 26 avril aux côtés de Christian Constantin, Bernard Nico ou encore Raffaello Radicchi. C'est vrai que si on se fie à la réputation du Jurassien, retraité de la politique depuis les dernières élections fédérales en 2015, on l'imagine volontiers à la tête d'un véritable empire immobilier et donc financier. Seule certitude, Pierre Kohler se consacre aujourd'hui entièrement à ses projets immobiliers dans la région, ainsi qu'à sa passion pour l'art. Pas de hasard donc si nous l'avons rencontré ce matin à Port-en-Truye, entre les murs de son musée du Popa, dédié à l'art optique et inauguré l'année dernière dans la cité Ajoulotte. Un musée aménagé au cœur d'une bâtisse du XVIe siècle, la maison Thurberg, entièrement restaurée par ses soins. Un projet qui symbolise mieux que mille mots sa conception de l'immobilier.
Alors pour moi, l'implication dans l'immobilier, c'est surtout faire revivre des lieux mythiques dans ma région et ailleurs, si c'est possible. Et effectivement, le Popa montre bien cette volonté, premièrement, de revaloriser des bâtiments à l'intérieur des villes. Ici, pour Entruis, c'est une ville extraordinaire, où il y a d'ailleurs de très belles opportunités de rénovation du patrimoine. Je dois dire que notre office du patrimoine historique peut aussi être très collaboratif dans ces rénovations. Et je crois qu'il y a aussi une volonté politique qui a été manifestée à Port-en-Truye de rénover le centre ancien. Et donc ici, le Popa, qui est une bâtisse du XVIe siècle, permet finalement de montrer que ce patrimoine immobilier est juste extraordinaire. Alors, ce n'est pas forcément un patrimoine de rendement, bien au contraire, mais je pense que nous devons laisser aux générations futures des immeubles avec une très grande qualité architecturale et puis aussi montrer que l'immobilier, la promotion immobilière, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi une valeur historique, une valeur culturelle que nous léguons à nos enfants.
C'est pas que de l'argent, mais néanmoins, pour réussir à mener à bien un projet tel que le Popa, il faut avoir les reins solides, il faut pouvoir s'appuyer sur une fortune, sur une réussite qui a quand même 30 ans d'histoire.
Oui, ben disons que comme ministre, on gagnait quand même assez bien notre vie, et vu que j'ai toujours eu comme objectif d'économiser de l'argent, je n'ai pas placé mon argent dans des fonds financiers, j'ai toujours placé mon argent dans le terrain et dans le bâtiment, dans le dur. Je suis un fils d'agriculteur, donc pour moi, il y a deux choses essentielles dans la vie, c'est se nourrir et se loger. Alors se nourrir, comme vous pouvez le voir, ça se passe assez bien, et se loger, je suis logé, mais je souhaite surtout offrir à la population des lieux symboliques, des lieux culturels qui permettent aussi à la population de voir que nous sommes dans une région riche, peut-être pas riche en argent, mais riche en valeurs culturelles.
Ça a commencé comment? C'était quoi le premier bâtiment, le premier appartement, la première maison, la première rénovation? Comment est née la carrière de promoteur immobilier de Pierre Kohler?
Alors la première maison que j'ai acquise, c'était la maison de ma grand-maman à Delémont. Et ensuite, j'ai acheté, puisque c'était au début des années 90, j'étais élu ministre, donc je gagnais bien ma vie. Je suis passé d'un salaire de 1000 francs à un salaire de 12 000 francs. Mais j'ai continué à vivre comme si je gagnais toujours que 1000 francs. Je me suis acheté de vieux immeubles à Choindé, que j'ai partiellement rénové, et j'ai loué ces appartements avec des loyers très modérés, mais j'étais payé régulièrement. Et petit à petit, ben, avec l'aide des banques, il faut savoir aussi que finalement, on est promoteur immobilier que si on a le soutien des établissements financiers, sinon c'est pas possible. Donc je n'avais au départ aucune fortune personnelle, donc je dirais que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à la sueur de mon front, et puis avec un salaire de ministre, c'est quand même un salaire qui permet de mettre de l'argent de côté, en tout cas ce qui était mon cas.
Alors les années passent, les projets se succèdent et on a l'impression que le petit cas, comme vous êtes surnommé dans le Jura, est dans tous les bons coups. Est-ce que c'est un peu comme le million, le premier bâtiment est peut-être le plus difficile à acquérir, mais ensuite tout s'enchaîne avec bien sûr un peu de flair?
C'est-à-dire que je ne suis pas dans tous les bons coups, je pense que je fais des choses que les gens n'ont pas le courage de faire. Donc ici j'ai acheté dernièrement donc le Popa pour Entruis ainsi que l'ancienne pharmacie Bourny. En fait, ce ne sont pas des bons coups. Si je devais regarder l'aspect financier, je devrais les revendre très rapidement, puisque en réalité, je perds de l'argent sur ces immeubles. Mais j'ai toujours su gérer mon argent de manière efficace, de manière efficiente. Et lorsque je fais des rénovations, des travaux, je suis régulièrement sur les chantiers. Alors le grand avantage de gérer de cette manière, c'est que j'ai pu, comme maire de Delémont, vraiment développer la ville. Alors ça faisait le bonheur de ma femme, parce qu'elle me disait, au moins, tu ne dépenses pas notre argent, tu t'occupes de l'argent des contribuables. Mais j'ai toujours essayé de gérer cet argent de manière efficace, comme si c'était mes propres affaires. Et donc, le fait maintenant d'avoir arrêté de la politique, ça me permet vraiment de m'éclater sur mes propres projets.
Alors, vos propres projets, si on veut avoir une idée un peu de l'ampleur de votre parc immobilier dans le Jura, un parc qui s'étend même au-delà, mais parlons peut-être du Jura, ça représente quoi? Là, si on va voir par exemple votre homologue neuchâtelois, Raphaël Ouradiki, on peut voir dans son bureau, sur un tableau, des petits points, des autocollants posés sur la ville. Vous-même, si on regarde la carte du Jura et puis qu'on compte ces petits points, il y en a combien?
Alors, si on écoutait la population, je pense qu'il y en aurait des milliers. Mais si, en ce qui me concerne, c'est que je crois qu'on n'arrive pas à 10 points sur le canton du Jura.
Vous n'avez pas plus de 10 immeubles dans le canton du Jura?
Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas que j'en ai peut-être 10.
Pierre Collère, ça veut dire que vos projets immobiliers dans le Jura, ça ne pèse pas plus lourd que ce qu'on peut compter sur les doigts de deux mains?
Oui, effectivement, on pourrait dire cela. Je crois que... Mais ce sont chaque fois des immeubles magnifiques, très beaux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on écoutait la population, je pense que tout le monde pense que j'ai pratiquement tous les immeubles dans le canton, ce qui n'est pas le cas. Et encore, les immeubles que j'ai, en fait, appartiennent en réalité aux banques, puisque j'ai des crédits hypothécaires sur ces immeubles.
Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait cette perception dans la population, qu'on a l'impression que vous soyez un mania de l'immobilier dans le Jura?
Parce que je suis un homme politique et puis forcément les adversaires politiques aiment bien faire courir des bruits sur beaucoup de choses. Donc régulièrement je dois dire aux gens non, ce n'est pas mon immeuble, et même quand je leur dis que ce n'est pas mon immeuble, les gens ont tendance à ne pas me croire. Mais enfin bref.
Vous êtes quand même avec votre pouvoir d'investissement pour par exemple monter le Popa, vous êtes multimillionnaire, on est d'accord?
Oui, en dette, effectivement. Multimillionnaire en dette.
Pierre Collère, vous allez intervenir à la fin du mois d'avril au Salon de l'immobilier Neuchâtelois, et vous êtes présenté au même titre qu'un Christian Constantin, qu'un Bernard Nicot, ou bien justement qu'un Raphaël Ouradiki, comme un baron de l'immobilier. Est-ce que vous acceptez ce titre?
Non, pas vraiment, mais je pense que c'était aussi de la part des promoteurs de ce salon, certainement un clin d'œil, mais parce que j'ai surtout été très actif dans l'immobilier, je dirais public, c'est-à-dire j'ai toujours été un constructeur, j'ai été ministre de l'Environnement et de l'Équipement, donc construction de la Transjurane, construction de nombreux immeubles cantonaux, et j'ai été maire de Léman avec beaucoup de constructions publiques, donc c'est peut-être aussi un clin d'œil, mais alors je n'ai vraiment rien à voir avec mes collègues des autres cantons, parce que j'arrive même pas à leur cheville, il faut être très clair.
Des collègues qui ont les dents longues, hein, on le sait, c'est un milieu quand même de gens très ambitieux. Vous-même, est-ce que vous avez aussi cette ambition, puisque vous avez arrêté la politique, de malgré tout accélérer cette activité de promoteur immobilier, quitte à vous étendre au-delà des frontières du Jura?
Non, honnêtement, j'ai pas vraiment d'ambition. Les ambitions que j'ai eues, je les ai toujours eues pour le canton du Jura, pour la ville de Léman. Maintenant, je dirais que je les ai un peu pour la ville de Porrentruy, parce que j'ai acheté vraiment deux immeubles historiques que j'ai rénovés. Sinon, je n'ai pas d'autres ambitions de grandir. L'immobilier, pour moi, ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est justement d'essayer de refaire des vieux immeubles, des choses comme ça. Donc, de remettre au goût du jour des immeubles, je dirais, symboliques dans notre région.
Avec aussi des coups de cœur qui n'ont rien à voir avec le Jura.
Oui, effectivement, des coups de cœur. Ben, mes coups de cœur, ça a été quelques investissements dans l'art, notamment avec ma collection d'art optique qu'on voit ici à Porrentruy au Popa. Mais également, ben, dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'un hôtel à Barbizon. Pourquoi Barbizon? Parce que c'est l'école des peintres de Barbizon où notamment a été peint le fameux Angelus de Millet.
Et Barbizon, c'est près de Fontainebleau?
Barbizon, c'est à côté de Fontainebleau, près de la forêt de Fontainebleau, un magnifique village qui est dans son jus comme au 19e siècle, et j'ai eu l'occasion d'acquérir cet hôtel. Mais alors, c'est la France. Donc c'est vraiment depuis une année la croix et la bannière pour travailler en France, que ce soit avec l'administration, les employés, les fournisseurs. Je dirais que là, c'est un des plus grands défis de ma vie.
Vous êtes définitivement imprévisible, Pierre Collère, c'est ce qui fait votre marque de fabrique. Qu'est-ce qui vous guide dans votre action ou dans ces coups de cœur, tel cet hôtel près de Fontainebleau? C'est pas le goût de l'argent, ou peut-être un peu, ou c'est plutôt de satisfaire votre soif de symbolique? Qu'est-ce que c'est ce principe qui gouverne votre action?
Alors, en tout cas, pas le goût de l'argent, ça c'est certain, parce que si j'avais le goût de l'argent, ben, je pense que je ferais, comme d'autres promoteurs, je ferais que des cages à lapins un peu partout. Non, mon objectif, c'est vraiment d'avoir du plaisir dans les immeubles que j'acquiers, et puis que ça soit lié justement à une activité. Alors, ça a été ici le Popa, avec l'art optique. À Barbizon, ben, c'est un hôtel qui est lié aussi à l'art, donc je suis en train d'en faire un hôtel arty, avec l'acquisition d'œuvres d'art. Et puis, c'est des immeubles qui ont une valeur historique, une valeur patrimoniale, donc qui ont un intérêt pour la population. Donc, si je voulais faire que des coûts financiers, ben, je crois que je ferais alors vraiment tout autre chose que l'acquisition de vieux immeubles.
Alors, on n'est pas dans l'arc lémanique, on revient dans le Jura, on est dans l'arc jurassien, une région où l'immobilier est un peu plus détendu qu'ailleurs, où les prix sont plus bas, où il y a encore des terrains disponibles. Pierre Collère, est-ce que vous voyez un potentiel dans le Jura pour des gens comme vous, pour tous ceux qui aimeraient investir dans l'immobilier?
Alors, le potentiel est très grand. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas aujourd'hui que des gens qui sont en fait en location n'acquièrent pas, par exemple, des PPE avec des taux d'intérêt très bas. Bien sûr, il faut aussi avoir la prudence d'amortir régulièrement. Pour les promoteurs, je pense qu'il y a encore des opportunités dans l'arc jurassien, c'est certain. Simplement, malheureusement, souvent les promoteurs veulent gagner de l'argent très vite, très rapidement. Or, je pense que dans nos régions, c'est surtout des situations de rente, donc avec des rendements un peu plus élevés qu'ailleurs, mais c'est sur la durée. Donc, à mon avis, l'arc jurassien n'est pas fait pour les spéculateurs. C'est fait pour des bons pères de famille qui gèrent leur argent de manière conservatrice, ce que j'ai par ailleurs toujours fait de mon côté.
Pierre Collère, qui sera donc un des invités de marque du prochain salon de l'immobilier neuchâtelois, jeudi 26 avril au patinoire du littoral à Neuchâtel. Il sera, comme vous l'avez entendu, en bonne compagnie, puisque le jurassien sera aux côtés de Damien Pilaire, Bernard Nicot ou encore Christian Constantin. Cet entretien, vous pourrez le retrouver évidemment sur nos sites internet.
Place publique.
Écoutez, c'est un des rêves d'adolescents et d'enfants d'être un astronaute. C'est vraiment une expérience, c'est vraiment incroyable.
Hey, vous l'avez peut-être entendu cette voix hier dans notre journal de 12h15. Il s'agissait de la voix de Raphaël Donjean, qui était en direct d'une chambre de décompression qui reproduisait au moment précis de cette interview les conditions de vol à une altitude de 15 000 mètres à moins 50 degrés, le tout vêtu d'une combinaison spatiale, un test réalisé dans la banlieue de Moscou, dans l'entreprise spécialisée Tvezda, qui fabrique depuis les années 50 les combinaisons spatiales pour le programme soviétique puis russe. Une étape cruciale pour l'éco-explorateur Châtelois en vue de son prochain défi baptisé Solar Stratos. Pour rappel, il s'agit de voler en avion solaire dans la stratosphère et de contempler la courbure de la Terre durant 15 minutes sans énergie fossile. Alors Raphaël Donjean, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Voilà tout juste de retour en Suisse après donc une expérience inoubliable dans la peau d'un astronaute. On l'a entendu, un rêve d'enfant. Sans doute aussi la sensation d'avoir touché à la légende de la quête spatiale.
Ben oui, c'est vrai que d'être chez Tvezda, donc l'entreprise qui a construit les premières combinaisons spatiales, celle de Yuri Gagarin et d'Alexei Leonov, le premier homme qui a finalement flotté dans l'espace et le premier homme qui était dans l'espace. Donc c'est vrai que c'est une sensation assez incroyable. À quelques mètres, j'ai réalisé cette expérience à quelques mètres de l'endroit où Yuri Gagarin s'est entraîné avec sa combinaison spatiale.
Rassurez-nous, tout n'est pas resté comme à l'époque, ça a un peu changé, ou il y a cette impression de faire quand même un saut dans l'histoire?
Alors c'est ça qui est incroyable avec les Russes, il faut d'abord savoir que c'est les seuls aujourd'hui qui sont capables d'emmener des hommes dans l'espace, la station spatiale est ravitaillée, et les astronautes et les cosmonautes qui se rendent dans la station spatiale volent uniquement avec les Russes, les Américains ne volent plus aujourd'hui, les autres pays ne sont pas encore capables d'emmener des astronautes dans l'espace, donc c'est les seuls qui sont capables de le faire, mais c'est aussi vraiment, ils sont dans une stratégie de low-tech, de ce qui fonctionne, on ne change pas, donc on a vraiment l'impression un peu de revenir 50 ans en arrière, d'être un peu dans Objectif Lune.
Voilà qui doit être dépaysant dans tous les sens du terme. Revenons, Raphaël Donjean, sur l'expérience en elle-même, qui est complètement folle. Vous êtes enfermé durant plusieurs heures dans une chambre d'altitude dépressurisée, et surtout glacée, congelée, protégée par votre combinaison. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu.
Alors, c'est vrai qu'on a tenté, on n'a pas pu réaliser la mission dans sa totalité, de simuler le vol que je vais réaliser avec Solar Stratos, donc à peu près 5 heures et demie de vol entre 0 et 25 km d'altitude avec plus que moins 60, moins 70 degrés. Et puis, donc on est en combinaison spatiale, il faut bien sûr la pressuriser, il faut respirer de l'oxygène à 100% pour enlever l'azote qui se trouve dans notre sang, pour qu'en cas de problème, on évite de faire un accident de décompression. On a des systèmes aussi de chauffage qui ont été designés pour cette combinaison, pour ce vol particulier. Et c'est d'ailleurs le petit problème qu'on a rencontré. J'ai par accident probablement déconnecté le système de chauffage de mon pied droit. Et lorsqu'il fait moins 50, et ben on a les pieds qui commencent à refroidir assez vite. Donc, il a fallu redescendre et il faudra refaire ce vol, ce test très prochainement.
Donc, vous avez eu froid aux pieds, si on résume.
Tout à fait. Donc, en fait, le problème venait d'avoir lieu qu'on s'est parlé. Et en fait, on se passait vite froid aux pieds. Et avec ces températures, se geler un pied pour un entraînement au sol, ça ne représente aucun intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré redescendre. Et on va retenter ce vol dans quelques semaines.
On le voit, hein, on parle de risque vital parce que le but, c'est de simuler des conditions très, très dures. Flirter avec l'espace, ça ne s'improvise pas.
Alors non, ça ne s'improvise pas et en fait, c'est ça qui est passionnant, hein, c'est que ce qu'on veut faire, c'est compliqué et si c'était simple, voilà, ben, ce serait beaucoup moins excitant. Et c'est vrai que quand on est dans cette chambre de décompression et qu'on, voilà, à moins 50, c'est extrêmement froid, lorsqu'ils m'ont redescendu, vous avez tout qui fume, tout qui est extrêmement froid, vous rendez compte que ben, ce qu'on essaie de faire, c'est incroyable, on essaye, et c'est un peu un paradoxe, de rejoindre la stratosphère, propulsée avec le soleil, donc quand même quelque chose qui devrait nous réchauffer, mais là pour aller dans un endroit qui est extrêmement froid.
C'est pas votre avion, hein, qui va vous protéger, mais bien votre combinaison, d'où l'enjeu. On a parlé de température, vous avez aussi évoqué bien sûr l'aspect de la pression.
Alors oui, parce que la pression c'est quelque chose d'essentiel. Les liquides, le point d'ébullition d'un liquide dépend de sa pression, donc ce qui veut dire que on va tellement haut, il y a tellement peu de pression, hein, 5% de la pression atmosphérique, que notre sang se mettrait à bouillir. Et donc ça, ce serait une mort quasiment immédiate. Ça, c'est un problème. Après, il y a les autres questions qui est l'oxygène et les questions de température. Même si l'avion va nous protéger un peu parce qu'on va pouvoir profiter des systèmes électriques qui sont dans l'avion, comme les batteries, comme le moteur. On va pouvoir récupérer un peu de chaleur pour maintenir la température de l'habitacle, une température supérieure qu'à l'extérieur. Et on va également profiter du soleil. Hein. Le soleil qui a cette altitude est beaucoup plus puissant que la surface de la Terre, hein, au niveau de la mer. 30% d'énergie en plus. Donc on aura quand même, si vous voulez, l'habitat qui va nous protéger. Mais là, on simule les conditions les plus sévères pour être sûr qu'on puisse réaliser ce vol dans des conditions de sécurité optimum.
Avec un enjeu d'innovation, hein, spécialement pour votre mission Solar Stratos, la combinaison doit fonctionner à l'énergie solaire, ce qui serait une première mondiale.
Exactement, et l'innovation qui vient d'ailleurs de notre canton, hein, c'est l'OXM qui a développé les systèmes solaires de notre avion, qui a encapsulé les cellules solaires qui s'ouvrent sur nos ailes pour vraiment avoir quelque chose d'extrêmement léger, capable d'aller à ces températures extrêmes. Donc c'est l'innovation, c'est aussi un partenariat incroyable entre plusieurs pays, la Suisse, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie et aussi Neuchâtel, qui justement ont développé ces technologies à OXM à Neuchâtel.
Et au vu de l'enjeu, on imagine que ça intéresse des partenaires. D'ailleurs, vous avez profité de ce voyage en Russie pour présenter votre mission Solar Stratos, notamment à l'ambassade de Suisse, à Moscou, mais aussi dans une université d'État de la capitale, ou encore à des cosmonautes russes. Dites-nous quel a été l'accueil, quels sont les retours?
Ben écoutez, c'est ça qui est très sympa, mais ça c'était aussi un peu comme avec l'aventure Panel Solar. C'est des projets où la majorité des gens trouvent ce projet incroyable, innovant. L'idée d'aller tutoyer les étoiles à l'énergie solaire, de faire un peu le vol d'Icare, hein, mais cette façon de brûler les ailes, bah, c'est quelque chose qui passionne les gens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, nous réjouit énormément de voir que, voilà, aujourd'hui, les choses évoluent, que la prise de conscience environnementale sur les changements climatiques, mais aussi la prise de conscience, la nécessité de faire un changement. Et que notre aventure, ben, elle va essayer de démontrer modestement que les solutions, elles existent. Et puis également que même dans le monde de demain, on fonctionnera aux énergies renouvelables, on pourra continuer de rêver et de réaliser des choses qui peuvent paraître inutiles.
Planète Solar vous a révélé au monde, on peut le dire. Raphaël Donjean, est-ce que dans le sillage de cette aventure et avec ce projet un peu fou de Solar Stratos, vous obtenez suffisamment de soutien pour porter une aventure qui, on le voit, hein, comporte de multiples défis complexes, même des allers-retours en Russie et qui doit coûter donc un certain prix? Est-ce que vous obtenez du coup, grâce à votre parcours, des financements suffisants?
On a, alors c'est toujours bien sûr la difficulté, c'est jamais simple, mais il y a des partenaires qui nous suivaient déjà dans l'aventure Planète Solaire. Et on a beaucoup de gens qui nous font confiance, qui nous suivent, que ce soit des entreprises, que ce soit l'État, hein, la ville de Neuchâtel, le canton de Neuchâtel nous soutiennent, mais aussi la Confédération, l'Allemagne avec l'Agence spatiale. Donc il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Bien sûr, c'est difficile, mais ça nous oblige aussi à être bons, à trouver des idées, à être innovants pour réussir notre projet. Donc c'est quelque chose qui est très excitant, et je dirais que la prise de conscience aujourd'hui, la révolution électrique, hein, la formule électrique et bien d'autres choses, nous rend extrêmement optimiste sur l'avenir des énergies renouvelables et aussi sur des projets comme les nôtres.
Alors on l'a bien compris, hein, le test de la combinaison qui vous amène ce soir à nous en parler, et on vous en remercie d'ailleurs. Ces tests ne sont pas encore concluants, ne sont pas encore achevés. Si on se projette sur le calendrier de l'aventure Solar Stratos, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que les tests dont on parle retardent un peu le calendrier, ou vous n'avez pas forcément de calendrier d'ailleurs?
Alors, on a un calendrier, et ces tests ne retardent pour l'instant pas notre programme. Hein. Cette année, le but, c'est de battre le record en avion électrique et solaire, qui est détenu par Bertrand Piccard, Solar Impulse, 9400 mètres, donc on espère aller à 10 000 mètres. On sera déjà l'avion électrique et l'avion solaire le plus haut de l'histoire. L'année prochaine, c'est rejoindre la stratosphère, environ 16 000 mètres. Les premiers vols en combinaison spatiale, et l'année suivante, le vol record absolu. Donc là, c'est quelque chose qui, je dirais, dans notre programme, ne va pas nous faire prendre de retard. On est au niveau de la commission spatiale, on est vraiment, on suit le planning. Et c'est plutôt aujourd'hui sur l'avion qui est vraiment, il va falloir qu'on mette beaucoup d'énergie. C'est quand même très compliqué ce qu'on veut faire. En même temps, on a du temps, hein, on n'est pas un jour prêt. Mais c'est vrai que ça reste compliqué. Et plus on avance, plus on se rend compte que c'est compliqué. Mais c'est aussi la bonne nouvelle. Si on savait dès le départ que ça aurait été aussi compliqué, peut-être qu'on ne se serait jamais lancé.
Quand on va sur votre site internet, d'ailleurs on invite tout le monde à le faire, hein, sur le site internet du projet Solar Stratos, où tout est bien expliqué avec une newsletter, on voit que c'est un défi de taille qui dure des années, bien entendu. Tout ça pour 15 minutes de vol, où vous pourrez admirer les étoiles, la rotondité de la Terre, tout ça grâce à l'énergie solaire, 15 minutes de vol. On imagine qu'avant de dormir, quand vous fermez les yeux, c'est à ça que vous pensez?
Alors, vous savez, ça, vous imaginez que c'est l'objectif, hein, mais le chemin pour arriver à ces 15 minutes à la frontière de l'espace, c'est ça qui est passionnant. Lorsqu'on est ingénieur, lorsqu'on est explorateur, c'est ce chemin qu'il va falloir parcourir, travailler avec une équipe, développer des nouvelles technologies, résoudre des problèmes. Et puis partager aussi cette aventure avec le plus grand nombre. Ça me fait par exemple très plaisir d'être avec vous ce soir. Je me rappelle encore qu'on a quitté Monaco et puis qu'on avait fait une interview avec vous. Donc c'est aussi tout ça, ces petits moments de bonheur. Et c'est pas vraiment uniquement la finalité qu'on vise, mais vraiment le chemin pour y arriver. Et on travaille, voilà, step by step, jour après jour, pour réussir. Et il faut vraiment y prendre du plaisir, non pas seulement se réjouir de la réussite.
Merci infiniment, Raphaël Donjean, de nous avoir communiqué votre enthousiasme, votre plaisir aussi à être avec nous, et aussi toutes ces informations précieuses sur l'avancée du projet. Bonne suite, et on ne manquera pas de suivre les prochaines étapes. À bientôt.
Merci à vous, belle soirée. Place publique.